Prenez le temps de vous installer confortablement. Toujours commencer par vérifier que la colonne soit droite pour ceux qui sont assis sans être raide. Détendre le visage. Essayer de voir s'il y a moyen de lâcher encore plus au niveau du visage. Lâchez les épaules. Et libérez le mouvement du bas-ventre. Laissez la respiration se faire. On peut prendre un temps aussi pour installer notre attention, se rappeler à nous-mêmes pourquoi on est là, pourquoi on va passer cette demi-heure, trois quarts d'heure. Établir clairement pour nous l'importance de s'engager, de laisser une chance à cette méditation, de se laisser rentrer dedans. De reconnaître l'opportunité. Là, on va porter toute notre attention dans la sensation physique d'un pied, celui que vous voulez. On peut déjà sentir le contact avec le sol. La chaleur. Picotement. Plein de sensations qui n'ont pas forcément un nom. Essayez de maintenir votre attention sur ce pied et le rencontrer en fait les yeux fermés sans le voir, le ressentir. Est-ce que par exemple c'est possible de ressentir chaque doigt de pied sans les bouger? La plante du pied, et la voûte. Remarquez comme les sensations diffèrent. On peut amener notre attention à la cheville, on remonte un petit peu. Et là, essayez de voir si vous arrivez avec votre attention à faire le tour de la cheville, presque comme si vous la touchiez avec votre doigt ou avec un stylo. Faire toute une boucle. Ressentir les malléoles. On peut remonter le long du tibia. On peut s'étonner que chaque endroit du corps a une sensation différente. On arrive aux genoux. On peut faire le tour de la rotule de la même manière en essayant de ressentir tout le tour. et le creux du genou. Puis on remonte sur la cuisse. Conscient de toutes les sensations qu'on peut trouver. La cuisse, c'est pas forcément facile, mais il y a peut-être la chaleur des mains, le contact avec le sol et d'autres sensations dedans. On cherche un peu. On peut amener notre attention à l'autre pied. Découvrir toutes les sensations qui s'y trouvent, des sensations différentes les unes des autres, suivant l'endroit. Prenez votre temps de faire l'inventaire des différentes sensations que vous pouvez percevoir dans le pied. On en vient à la cheville. De la même manière, on essaye d'en faire tout le tour, comme si on dessinait une ligne avec un stylo. S'émerveiller parfois de la précision de l'attention, comme on peut la diriger avec précision et sentir un endroit bien choisi. Et remonter le long du tibia. Jusqu'au genou. Faire le tour de la rotule. Connecté à la sensation du creux du genou qui est très différente de la rotule. Et remonter dans la cuisse. La sensation dessus et dedans si possible. Puis les fesses, le contact avec le sol, le poids du corps, le vêtement peut-être. Et on peut monter à la base de la colonne. Et de là, de la même manière qu'avec la rotule, faire le tour de la taille. En essayant de sentir bien tout le tour et remarquer les différentes régions et les différentes sensations qu'on traverse. Prenez votre temps, faites bien le tour de la taille. Maintenant, on revient à la base de la colonne. Essayez de voir si vous arrivez à être bien là, bien à la base de la colonne. Est-ce que vous sentez cette base? Puis on va commencer à remonter doucement la colonne en essayant de sentir chaque vertèbre, ce qui est bien sûr assez difficile. Mais quand même, il y a des sensations là, le long de la colonne. Montez doucement. On arrive doucement à la nuque. Là, on part sur une épaule, dans une épaule, bien sentir l'avant, l'arrière, l'intérieur de l'épaule. Le dessous du bras. Le biceps, sans le contracter. Triceps. Le coude. L'avant-bras. Le dessus, le dessous. Le poignet. On peut faire le tour du poignet. Et la main. Une des zones du corps qu'on sent le plus facilement, dans laquelle il y a beaucoup de sensations physiques, des sensations très différentes. Prenez le temps de ressentir chaque doigt. Et chaque sensation de la main, sans la bouger. Maintenant, on peut amener notre attention à l'autre épaule, devant, derrière, dedans. Peut-être même le poids du t-shirt nous donne des indications, nous permettent de la sentir mieux. Chaleur, picotement, vibration, tension. Le dessous du bras. Le biceps. Triceps. Le coude. L'avant-bras, le poignet, et l'autre main. On peut de nouveau passer un peu de temps. Faire l'inventaire de toutes les sensations qu'on y trouve. Remarquez aussi que ces sensations ne sont pas fixes, elles changent. Par Enfin, en quelques secondes, une sensation qu'on avait trouvée n'est plus vraiment là ou alors elle est différente. Prenez le temps, intéressez-vous à ces sensations de la main. On peut revenir à la nuque et monter, continuer à monter, c'est le sommet de la colonne vertébrale. Bien sentir l'arrière de la tête. Remarquez si c'est possible pour vous de sentir l'arrière du crâne. Et aller jusqu'au sommet du crâne. Concentrez-vous bien, essayez de sentir s'il y a une sensation juste là au sommet du crâne. Et si oui, on peut s'en étonner de cette capacité d'aller sentir n'importe quel endroit de notre corps, même le sommet du crâne. Peut redescendre sur le front. En même temps, on peut le détendre. Les tempes. Les joues. Relâcher les mâchoires et bien sentir cette sensation. Les gencives. Même peut-être les dents. On peut descendre dans la gorge. Vous pouvez déglutir si vous voulez et sentir le mouvement. Descendre sur la poitrine. Essayez de sentir les poumons à l'intérieur de la poitrine. C'est pas simple, mais on peut essayer. Et le cœur. Est-ce que c'est possible pour vous de sentir les battements du cœur? Détendez-vous bien, prenez le temps et essayez vraiment, sans déjà vous dire que c'est pas possible. Juste essayez. On sait qu'il est là et qu'il bat. Est-ce qu'on peut le sentir? Venir au plexus solaire et au diaphragme. descendre au bas-ventre. Et là, on se retrouve avec le mouvement de la respiration. Maintenant, par vous-même, vous pouvez continuer ou reprendre dès le début cette visite du corps. Juste rester avec la respiration. Peut-être aller à certains endroits du corps qui vous ont intéressé, intrigué. Probablement, il y a des moments où on est distrait, parti dans des histoires. Et c'est pas un souci, ça fait partie de la méditation. Ça fait partie de la longueur du temps qui passe. Il y a des pensées qui nous attrapent. Et quand on le remarque, ben sans souci, mais on revient. On continue ce jeu, présent, absent. On revient au corps. On reprend la visite, on reprend le contact. La respiration. On essaye de s'ancrer. On essaye de ne pas repartir. Pas parce que c'est un problème, mais parce que notre attention est une attention de présence. Alors on essaye. Mais ça repartira à un moment ou à un autre. Et c'est pas grave. Attends pour question ou retour d'expérience de cette méditation. Okay. Ok. Ok. Donc la question c'est qu'est-ce que tu penses de boire du café avant la méditation? Parce que c'est pas une drogue, mais c'est quand même ça affecte le psychique. How is it when you drink coffee? How is your meditation when you drink coffee? But you think you can't meditate because you drink coffee?
No.
No, okay.
I think I need exercise, but I also think that drinking coffee maybe it's a problem because wake up your brain.
Okay.
But my question
yes.
was in general, not
yeah.
personal.
Okay.
Because
okay. Do you have your translating machine works or not? Okay. So I will do. Ok, Debbie, you can. Donc la question, qu'est-ce que tu penses du fait de boire du café avant de méditer? Ben pour moi, il faut essayer. Il faut essayer, il faut voir en fait qu'est-ce qui se passe quand on boit du café. Ben, comme ça, au moins, on saura ce que ça nous fait le café. C'est ça l'idée en fait de la méditation, c'est la connaissance. C'est pas d'arriver à un état. C'est la connaissance pour moi l'important. Alors, si on boit du café d'habitude, ben, autant savoir ce que ça nous fait. Si ça se trouve, en fait, ça va bien de boire du café, et peut-être, il y a peut-être une limite aussi. Ou peut-être, il y a des moments, en fait, où ça va bien, et des moments où ça ne va pas bien du tout, ça agite, ça crée des tensions. Mais peut-être des moments où ça aide le focus aussi. Alors, il n'y a pas, pour moi, une réponse qui va pour tout le monde et pour tous les moments. C'est que chacun doit arriver à savoir si c'est que ce soit le café ou n'importe quoi. Est-ce que c'est vraiment juste et avisé? Et pour ça, il faut connaître. Et pour connaître, ben, il faut essayer. Alors, de temps en temps, ben, buvez du café, puis méditez. Et puis, quoi que ce soit que vous fassiez, ben, faites-le, et puis méditez, et regardez l'effet. Observez l'effet. Et vous allez connaître. Et si l'effet est néfaste, d'avoir vu clairement, vous allez plus facilement vous libérer de quelque chose que vous faites quand même d'habitude. Mais là, vous voyez que c'est néfaste. Il y a une sagesse qui s'installe. Et c'est mieux que d'avoir des idées à propos de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Et c'est, à mon sens, plus intéressant, parce que c'est une référence intérieure, plutôt que d'avoir des références à l'extérieur qui disent ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. C'est en fait, je pense que il faut que chacun d'entre nous reprenne confiance dans sa propre sagesse et dans sa capacité de connaître. Et pas ce qu'on va chercher chez les autres, c'est leurs intuitions, leurs inspirations, la beauté de leurs expériences, mais vraiment pour la connaissance. On peut avoir des idées qu'on a apprises dans les livres ou sur YouTube ou dans des festivals, des stages, mais la connaissance va être par notre propre expérience, toujours. Donc, par exemple, tout à l'heure, je disais, bah, quand on met l'attention dans la pensée grossit. Si on met notre attention ailleurs, la pensée ralentit. Bah, ça paraît sensé, peut-être, enfin, j'espère que ça me paraît sensé, mais ce n'est pas suffisant. Il faut le voir. Il faut le voir. Il faut que chacun ici constate par lui-même que quand il cesse de nourrir la pensée, La pensée ralentit. Et alors là, on devient connaissant. On voit clairement par nous-mêmes. Et là, alors la sagesse grandit. Une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de nos fonctionnements s'installe. Et de là, une meilleure capacité de nous diriger dans la complexité de la vie. Et une compréhension de la place de la pensée, comment l'utiliser, quand est-ce qu'elle est négative ou difficile ou problématique. Et pareil pour le café, et pareil pour toute chose. Oui, Franck. Okay. Un grand double café pour la prochaine méditation. Ok. Ouais. Alors, perdre l'équilibre, ça, c'est au moment où on perd l'attention qu'on perd l'équilibre. C'est pour ça, en fait, on peut même remarquer que c'est super intéressant parce que la posture assise, droite, la colonne vertébrale droite, induit une capacité de focus, de précision de l'attention. Ça permet de rassembler notre attention et d'observer sur un seul point. Et là, on se sent présent et on peut se concentrer sur quelque chose. Et au fur et à mesure qu'on perd cette présence et cette attention, cette capacité d'attention, on se courbe. Et si on va vers le sommeil, on va se courber plus. Et alors là, il va y avoir un petit... Ah, c'est dur en méditation, hein. Et alors là, il y a, en plus du café, il y a encore deux autres solutions. Le café peut être exploré, mais une solution. Alors déjà, vous pouvez vous lever, parce que c'est dur, hein. Vous levez, vous mettre debout, ça va réveiller un peu. Ou alors, vous pouvez lâcher et vous allonger, et ça va partir. Ça va partir, mais j'y reviendrai. La méditation allongée. Même quand on est parti, même quand on n'est pas présent, il y a quelque chose en nous de notre intention profonde qui travaille. Il y a quelque chose, c'est pas comme si du coup tout était à l'arrêt. Il y a une partie inconsciente de nous-mêmes qui quand même cherche. Et j'en parlerai plus tard. Alors donc, on peut de temps en temps, ça dépend si vous avez tendance à être trop doux avec vous-même tout le temps et éviter toujours les efforts, mieux vaut le combat. Ça ou même debout. Et si vous avez tendance à être dur avec vous-même, mieux vaut s'allonger et éviter la douceur et le lâcher prise. Il y a un entre-deux dans la posture allongée, vous pouvez poser le bras comme ça et au moment où il va tomber, ça veut dire que vous avez perdu, que vous êtes parti trop loin. Si vous voulez, mais vous pouvez aussi vous laisser partir loin. Et vous posez le bras, s'il tombe, ça va faire le petit coup que... Voilà, ça c'est un entre-deux. Et du coup, ça amène aussi au ronflement. Moi j'ai fait des retraites de méditation allongée, on était 80 dans la salle. Je ne vous raconte pas. Et puis c'est pas facile quand on est juste à côté de celui qui ronfle. Et du coup, il y a des gens que ça choque, même dans une salle de méditation, qu'il y en ait qui ronflent et tout. On est là pour méditer et tout, l'outil est barré, là. Alors, en fait, déjà, on peut voir notre réactivité. Hein, le ronflement, comme les acouphènes, ça va générer qu'on... Ça devient de plus en plus terrible, en fait. Et à un moment, il n'y a plus que ça, en fait. Et toute notre méditation, il ne s'agit plus que de l'autre à côté qui ronfle. Il n'y a plus d'espace, en fait. Ça envahit tout notre monde. Ça, c'est de la réactivité. C'est tout à fait normal. C'est super dur d'être non réactif à côté de quelqu'un qui ronfle. Mais c'est l'occasion d'essayer. C'est l'occasion d'essayer d'empêcher l'esprit de toujours revenir et d'être juste sur ça et de se dire, je ne peux, ma méditation ne sera bonne que s'il s'arrête. Sinon, ce n'est pas possible. Et ça, c'est de la réactivité, ça. Et de voir s'il y a moyen de relâcher et de ne pas laisser, genre presque on est là, on attend le ronflement suivant. Comme, vous voyez, il y a plein de choses à regarder en fait, de ce que fait notre esprit. là, il y a eu quelques ronflements. Qu'a fait votre esprit? Du jugement, de la réactivité, de se dire, oh là là, s'il savait, lui serait gêné. Enfin, il peut y avoir toutes sortes, en fait. Et c'est intéressant de voir comment notre esprit réagit à une vibration sonore qui se promène dans l'air et qui est interprétée, ronflement, et du coup qui est connotée, et puis les résistances qui viennent dessus, tout ça, c'est des processus de nous-mêmes. Pour moi, quand on comprend ce qu'est la méditation, toutes les situations sont intéressantes parce qu'elles nous permettent d'apprendre. Est-ce qu'il y a d'autres retours, questions? Oui. Comment? Oui. Comment être régulier? C'est chaud. Faut en faire son métier et du coup après on a une pression supplémentaire. Non, ce qu'il y a, il y a beaucoup de choses à en dire pour avoir une pratique régulière. Il n'y a pas une recette parce qu'on a tous une relation différente à la discipline. Il y en a qui vont se dire, moi je vais pratiquer 1 heure par jour. Et rien que le fait de le dire déjà, c'est mort. Parce que on n'aime pas de s'imposer des choses et de. Il y en a d'autres pour qui ça va très bien fonctionner, parce qu'ils fonctionnent comme ça. Chacun va devoir trouver sa relation à la discipline, mais quelque chose qui va faire une grosse différence, c'est quand on comprend et qu'on commence à sentir l'intérêt, la raison, la beauté. Et le bien fondé de la méditation, quand vraiment on l'a senti, on le voit, c'est pas que ça reste, c'est pas que ça devient facile, mais moi je me lève le matin pour méditer, je dois toujours me mettre un espèce de petit coup de pied au cul pour sortir du lit, mais dès que je suis sorti du lit, je suis trop content en fait. Et là, c'est parti pour ma pratique. Et parce que maintenant, peut-être au début, c'était beaucoup des idées de il faudrait que je médite pour arriver quelque part ou pour tel problème ou parce que ça m'intrigue ou maintenant c'est plus ça, c'est parce que j'aime. Et ça, c'est la différence en fait. Dans la discipline, c'est plus je médite parce que je sais que c'est bon, mais je médite parce que j'aime ça. Et quand on passe ce cap-là, alors c'est plus la même discipline. C'est un intérêt et on va suivre cet intérêt. Après, il y a beaucoup de choses à en dire. Pour continuer la pratique de la méditation, il faut nourrir cet intérêt justement et cette curiosité. Et pour ça, des lectures. Il faut maintenir ça dans son monde en fait. Il faut que dans notre attention quotidienne, il y ait des informations et des choses à propos de la méditation. Rencontrer des gens qui pratiquent, discuter avec eux, écouter des discours sur YouTube, lire des bouquins. Aller à des stages, des retraites et tout ça, le maintenir dans son quotidien va aider. Mais la relation à la pratique et tout, c'est tellement personnel en fait, qu'il n'y a pas vraiment un truc où dire voilà, fais comme ça et ça va marcher. Pour certaines personnes, c'est d'avoir un endroit précis dans la maison, avec la petite déco qui va avec, et pour certains, le petit temple et tout ça, avec un beau Bouddha, ça va inspirer. Voilà, chacun en fait va trouver son fonctionnement. Oui. Ouais. 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 Ok. Alors il y a deux mouvements qui sont assez différents l'un de l'autre. Il y a vraiment celui où on pique du nez, et puis hop, à un moment ça va trop loin, on est en déséquilibre, et ça nous met un petit coup et ça nous rappelle. Et puis il peut y avoir un petit mouvement de balancier, De gauche à droite ou d'avant en arrière ou un peu en spirale. D'ailleurs, ça va très bien ici, hein. C'est un petit mouvement un peu qui tourne comme ça. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir ce que l'esprit en fait. Est-ce que c'est un problème ou certains ont sûrement vu, si vous avez vu une vidéo du Dalai Lama, il est tout le temps comme ça. Alors, si ce mouvement-là, il vous vient en méditation, est-ce que l'esprit dit, ah, ça y est, je suis un peu comme le Dalai Lama maintenant. Il y a quelque chose qui... Vous voyez, qu'est-ce qu'il en fait, l'esprit, en fait, du petit mouvement? Et le petit mouvement, on peut dire, il est énergétique. Voilà, c'est une réponse énergétique à l'attention. L'attention portée sur le corps, comme on vient de le faire, c'est pas du tout anodin, hein. L'attention, il y a une puissance dans l'attention. Quand on focus l'attention sur quelque chose, il y a vraiment une grande puissance en fait. On est accoutumé quelque part, donc on ne le remarque pas même. Le fait de porter attention au corps, énergétiquement, ça fait des choses. Comme quand à la respiration, on disait, ça change, ça transforme la respiration. Et donc, parfois, ben, il peut y avoir une petite réponse énergétique, comme ça, un petit mouvement. Et ce petit mouvement, il peut devenir un peu hypnotisant en lui-même. Et il crée une petite sensation physique qui devient aussi une référence. J'ai déjà remarqué souvent chez les personnes aveugles, j'ai remarqué qu'elles se balancent. Et je me suis souvent demandé si ce n'était pas une manière d'être en relation avec le corps sans le voir. Et nous, on a les yeux fermés et parfois, moi, je sens ça. Du coup, ça me... Parce que parfois, le corps, il peut être très peu là en méditation aussi. On ne le sent plus presque. Ou la respiration disparaît un peu. Et voilà, ça crée un petit mouvement qui devient un objet d'attention aussi, qui crée une espèce de continuité. Et du coup, pendant ce temps-là, pendant qu'il y a ça, il n'y a pas de pensée ou très peu de pensée. Et donc, c'est ni bien ni pas bien, c'est pas du tout un problème. Et c'est pas non plus à cultiver ou à chercher. Et si l'esprit en fait quelque chose, c'est intéressant de voir ce qu'en fait l'esprit, en fait.
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça marche d'imaginer des couleurs?
Ouais. Alors donc, on peut avoir des couleurs où ça peut être très visuel, les yeux fermés. Et j'ai remarqué que justement dans le public techno, Dharma Techno, il y a plus que dans mes autres publics des images. J'ai remarqué ça et du visuel. Mais alors il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a des images, des couleurs qui viennent, ou imaginer des couleurs, ce qui sont deux choses différentes. Et alors, s'il y a des couleurs qui viennent, eh ben, du coup, si on est bien présent, on remarque qu'il y a des couleurs qui viennent. Pendant qu'on voit les couleurs, on n'est plus avec la respiration. Peut-être, mais de nouveau, moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait d'observer, pas forcément d'essayer de comprendre, mais de voir ce qui se passe. Et donc on est là, au moment où il y avait les, pardon, au moment où il y avait les couleurs, il y avait peu de pensées probablement. Voilà.
Blanc, il y avait plein de couleurs qui me venaient en tête, violet, rouge.
Voilà, ok. Donc là, ça veut dire qu'il y avait une bonne attention, une bonne concentration. Si c'était parti sur des histoires, si tu étais parti sur des histoires de ta vie d'avant ou de tes projets après, ça n'aurait pas été possible. Il y avait une bonne attention. Et du coup, là, il y a des couleurs qui sont venues où tu as imaginé des couleurs. Et ça, comme je le disais, chacun trouve sa manière d'être présent. Et là, si c'est ça qui est venu, parfois on a des inspirations, on ne sait même pas d'où ça vient, et il y a quelque chose dans notre méditation qui nous permet de nous amener en profondeur. Et ce n'est pas du tout la respiration, et ce n'est pas du tout les sensations physiques comme c'était guidé, il y a autre chose qui vient et qui fait qu'en fait on est hyper présent. Il se passe un truc en nous et on est conscient que ça se passe. Et c'est cet état d'être conscient de ce qui est en train de se passer qu'on cherche, qui est intéressant. Que ce soit des couleurs, que ce soit la respiration, que ce soit des sensations physiques, ça n'a pas grande importance. C'est l'état de non-distraction. Et comment on sent cet état de non-distraction? Quand on se sait non-distrait, ça c'est très intéressant. Donc non, ce n'est pas du tout un problème. Et si vous avez des images, et si vous avez un moment... Même, on verra, je ne veux pas vous rendre confus avec trop de contradictions, mais à un moment, les pensées vont être utiles et intéressantes aussi. On va laisser ça de côté pour le moment, mais juste pour ouvrir déjà un peu la possibilité, la pensée ne va pas être tenue toute notre vie en dehors de la méditation, elle a sa place aussi. Rien n'est en dehors de la méditation. Donc là, quand dans votre méditation, il y a quelque chose où vous sentez que là, c'est intéressant, si ça, il y a une sensation, c'est accompagné d'une sensation de bien-être, accompagné d'une sensation de présence, alors faites confiance à ça. C'est ça qui est juste. Ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui a trouvé son chemin vers la méditation. C'est ce chemin-là que, de l'extérieur, personne ne peut vous le donner. Alors ne suivez plus les instructions. Suivez votre chemin que vous sentez là. Il faut reconnaître le côté un peu goûtu du contact avec nous-mêmes. Cette sensation d'être présent à soi-même, là on sait qu'on est dedans, même si c'est avec, à travers des visuels, à travers la respiration, à travers des sensations physiques, à travers la conscience des pensées qui vont et qui viennent, ou une sensation d'espace, des images, ça n'a aucune importance. Il faut reconnaître la sensation d'être là avec soi-même et de voir des choses qui se produisent en nous et de faire waouh, je suis en train de voir des choses qui se produisent en moi. Je me sens présent et à l'intérieur de ma présence, il y a des couleurs, il y a des sons, il y a des sensations physiques, il y a une émotion, il y a de la distraction et puis hop, ça revient. Voilà. Okay.